Chapitre 13. Reconstitution. À 7 heures, le soir même, 5 hommes au visage grave sont réunis dans la salle numéro 13 du service médico-légal de l'Institut Karolinska. L'inspecteur principal Ionalina souhaite mener une enquête préliminaire sur le cas de la jeune femme retrouvée morte dans un yacht à la dérive. Bien que l'on soit samedi, il a fait venir son supérieur immédiat, Peter Neslund, ainsi que le procureur Jens Svanehjelm, à une reconstitution, afin de les convaincre qu'il s'agit d'un homicide. Au plafond, un des néons clignote. La lumière froide vacille sur les murs éclatants.
« Il faut que je change l'ampoule, » dit l'aiguille à voix basse.
« Ouais, » répond Fripp.
Installé près du mur, Peter Neslund marmonne quelque chose d'inaudible. Son visage carré paraît trembler à la lumière du néon. L'air agacé, le procureur Jens Svanehjelm attend à ses côtés. Il semble évaluer les risques que comporterait le fait de poser sa mallette en cuir à terre et de s'adosser au mur dans son élégant costume. Une forte odeur de désinfectant imprègne la pièce. Des lampes réglables éclairent puissamment une table d'autopsie en inox munie de 2 canaux d'évacuation. Le sol est recouvert d'un linoléum gris clair. Une bassine en zinc, semblable à celle présente sur le bateau, est déjà à moitié remplie d'eau. Un seau à la main, Ionalina fait des allers-retours entre celle-ci et un grand évier.
« On ne pense vraiment pas à un crime quand quelqu'un a été retrouvé noyé à bord d'un bateau, »
s'impatiente Svanehjelm.
« Exactement, » répond Peter.
« C'est peut-être une noyade accidentelle qui n'a pas encore été déclarée, » poursuivit Svanehjelm. « On a retrouvé de l'eau de mer dans ses poumons. Pourtant, on n'en a relevé aucune trace sur les vêtements ni sur le corps de la victime, » dit Nils Olen.
« Étrange, » constate Svanehjelm.
Il y a sûrement une explication rationnelle,
dit Peter avec un petit sourire. Iona verse le contenu d'un dernier seau dans la bassine, le pose à terre, puis relève la tête vers les 4 hommes présents pour les remercier d'avoir pris le temps de venir.
Je sais que c'est le week-end et que tout le monde aimerait bien rentrer chez soi, mais je crois avoir découvert quelque chose. Tu nous dis que c'est important, il est normal qu'on soit là,
répond aimablement Svanehjelm, qui pose enfin sa mallette entre ses jambes.
Le meurtrier est monté sur le yacht, commence Yona d'un ton grave. Il a descendu l'escalier menant à la cabine avant et y a vu Pénélope Fernandez qui dormait. Il est donc retourné sur le pont arrière, a plongé le seau attaché à une corde dans la mer et a rempli la bassine.
Avec 5 ou 6 seaux, dit Peter.
Une fois la bassine pleine, il est allé réveiller Pénélope. Il l'a amenée de force sur le pont, où il l'a noyée dans la bassine.
« Qui ferait une chose pareille ?» demande Svanehjelm.
« Je l'ignore pour l'instant. Il peut s'agir d'un acte de barbarie, de torture. Vengeance, jalousie ?»
Yona incline la tête sur le côté et précise d'une voix circonspecte.
« On n'a pas affaire à un assassin ordinaire. Peut-être voulait-il lui soutirer des informations, lui faire dire ou avouer quelque chose avant de la maintenir sous l'eau jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus s'empêcher d'inspirer. « Qu'en dit le médecin légiste en chef ?» demande Svanehjelm.
L'aiguille secoue la tête.
« Si on l'a noyé, j'aurais dû retrouver des traces de violence, des hématomes sur le corps et...
« Est-ce qu'on pourrait garder les objections pour plus tard ?»
l'interrompt Yona.
« J'aimerais vous montrer comment j'imagine la scène. » Comment je vois la succession des événements, bref, ce qui s'est passé. Et ensuite, lorsque j'aurai terminé, nous irons tous examiner le corps pour voir si ma théorie tient la route.
« Pourquoi tu ne peux jamais rien faire selon la procédure ?»
demande Peter.
« Je dois bientôt rentrer, » avertit le procureur.
Yona le fixe. Un éclair d'un gris glacial semble passer dans ses yeux clairs. Un sourire flotte au coin de ses lèvres qui n'ôte rien à la gravité de son regard.
Pénélope Fernandez, commence-t-il, a passé un moment à fumer du cannabis sur le pont. C'était une chaude journée et lorsqu'elle a senti la fatigue la gagner, elle est descendue jusqu'à son lit pour faire une sieste et elle s'est endormie vêtue de sa veste en jean. Il fait un geste en direction du jeune assistant de l'aiguille qui patiente dans l'encadrement de la porte. Fripp a promis de m'aider pour la reconstitution. Fripp fait un pas en avant et affiche un grand sourire. Ses cheveux teints en noir pendouillent le long de son dos. Il porte un pantalon en cuir usé et parsemé de clous. Il boutonne méticuleusement une veste en jean sur son t-shirt noir, arborant une photo du groupe de hard rock Europe. « Regarde !» dit Yona d'une voix douce, en montrant de quelle façon il peut immobiliser Fripp les deux bras sur le dos, en saisissant d'une main les manches de sa veste et en empoignant fermement ses cheveux longs de l'autre. « Je le maîtrise complètement, et il n'y aura pas le moindre bleu sur lui. » Yona soulève les bras du jeune homme derrière son dos. Fripp pousse un gémissement en se penchant en avant. « On se calme !» dit-il en riant. « Tu es évidemment bien plus grand que la victime, mais je crois quand même pouvoir enfoncer ta tête dans la bassine. »« Fais attention à lui !» dit l'aiguille. « Je vais juste le décoiffer. » « Laisse tomber !» dit Fripp avec un sourire.
Ils assistent à un combat silencieux, à peine perturbé par quelques soupirs. L'aiguille a l'air inquiet, et Svanoyelm semble embarrassé. Peter lâche un juron. Yona plonge sans difficulté la tête de Fripp dans la bassine, le maintient sous l'eau un court moment, puis lâche prise et recule. Fripp se redresse en chancelant et l'aiguille accourt avec une serviette.
« Il aurait suffi de nous l'expliquer !» dit-il agacé.
Lorsque Fripp s'est essuyé, ils rejoignent en silence la pièce voisine dans laquelle, malgré la fraîcheur, persiste une odeur de décomposition. Dans l'un des murs, trois rangées de cellules réfrigérantes en inox ont été installées. L'aiguille ouvre le numéro 16 et fait coulisser l'étroite civière sur laquelle est étendue la jeune femme. Nue, elle a un teint blafard et des varices autour du cou. Yona désigne la fine courbe sur sa poitrine.
« Déshabille-toi » dit-il à Fripp.
Fripp déboutonne sa veste et enlève son t-shirt noir. Sur son torse, on distingue une trace rose laissée par le bord de la bassine, une marque courbe qui semble encore une fois représenter une bouche souriante.
« Merde alors !» s'exclame Peter.
L'aiguille s'approche de la table pour examiner le crâne de la femme. Il dirige une petite lampe de poche sur la peau pâle du cuir chevelu.
« Pas besoin d'un microscope. Elle a été retenue très violemment par les cheveux. »
Il éteint sa lampe puis la range dans la poche de sa blouse.
« Autrement dit, tu as raison, »
dit l'aiguille qui applaudit.
« Meurtre !» soupire Svanoyelm. « Impressionnant !»
dit Fripp en essuyant les traces qu'a laissé le maquillage noir autour de ses yeux.
« Merci. »
répond distraitement Yona. L'aiguille le regarde d'un air étonné.
« Qu'est-ce qu'il y a, Yona? Qu'est-ce que tu as vu ?»«
Ce n'est pas elle.
Quoi ?»
Yona échange un regard avec l'aiguille, puis montre le corps.
« Ce n'est pas Pénélope Fernandez, c'est quelqu'un d'autre, » dit-il en regardant le procureur. « La femme morte n'est pas Pénélope. J'ai vu la photo sur son permis de conduire, et je peux vous assurer que ce n'est pas elle. »
« Mais qu'est-ce que... »
« Il se peut que Pénélope Fernandez soit également morte. Mais si c'est le cas, nous ne l'avons pas encore retrouvée. »